pour les taux d'intérêt, ainsi que du risque de ralentissement de la croissance. La situation d'Evergrande pèse aussi sur le moral des opérateurs. Sa suspension de cotation ce lundi à Hong Kong a ravivé les craintes d'un défaut de paiement du géant chinois de l'immobilier. À Paris, le recul du CAC 40 a été freiné par Total Energy, sa plus forte hausse grâce à un gain de 2%. Les cours du pétrole sont remontés au-dessus de 80$ pour le baril de la mer du Nord, mais la compagnie a aussi été portée par le conseil d'achat d'un courtier. C'était Cécile Le Cause d'investir pour RFI.
Merci, merci à vous d'écouter RFI les 18h10 ici à Paris.
Radio G 101.5 FM.
Le Grand Ouest Festival.
Du 24 septembre au 16 octobre 2021, le Centre Dramatique National Le Quai à Angers ouvre sa saison avec un tout nouveau rendez-vous, le Go Festival.
Après de longs mois de silence, le CDN vous invite à trembler ensemble avec ce concentré de spectacles vivants et vivifiants.
23 propositions de théâtre,
cirque,
danse,
musique
et autres performances présentées au quai et dans 8 autres lieux de l'agglomération angevine.
Le Grand Ouest Festival, première édition du 24 septembre au 16 octobre 2021.
Informations et réservations sur lequai-angers.eu.
h 10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Et le temps se rafraîchit, mais on vous accompagne chaleureusement sur le retour du travail. En voiture ou sur les lignes Irigo, la quotidienne de Radio G vous divertit et vous informe avec les agitations locales et culturelles. Vous le savez, le lundi, c'est Tourisme et Patrimoine avec notre partenaire Anjou Tourisme. Et à cette occasion, du coup, j'accueille Karine Legendre et Émilie Gachet. Bonsoir mesdames.
Bonsoir.
Ça va ?
Très bien.
Pas trop impressionné ?
Un peu.
Un petit peu. C'est Émilie qui est impressionnée, Karine aussi. Vous êtes accompagnée de Jean Luard, puisque ce sera du coup notre deuxième invité de cette émission. Bonsoir Jean.
Bonsoir.
Alors moins impressionné toi hein.
Bah, j'ai un peu plus l'habitude de venir à Radio G.
Oui, et puis t'es une star
Oula.
Non ? Dans le secret 1, Karine, tu connais Jean ?
Non, je connais pas, mais...
Jean, Émilie ?
Et moi non plus, je découvre.
Ok, bon, on va recontextualiser du coup. Donc, Karine Legendre, directrice générale de l'Office de Tourisme aux Émauges. Émilie Gachet, donc propriétaire éleveuse, comment on qualifie ça ?
Alors, je suis co-gérante de la ferme des Serres de la Fardelière avec Freddy, mon conjoint.
Voilà, dont on parlera du coup en première partie d'émission. Et Jean, pour finir, qui est auteur de livres, historien, comment on te qualifie ?
Oui, historien du Haut-Anjou.
Et du coup, tu es là pour nous parler de ton dernier livre, Le Château du Paty à Maran. Et si vous êtes des habitués de l'émission, bah vous savez qu'il s'agit du château d'Hervé Bazin. Et d'ailleurs, on avait accueilli Jean-Christophe Garnier il y a quelques semaines. Bon, il fait beau, mais pas très chaud. Donc en fin d'émission, c'est Mathem, notre blogueuse angevine préférée, qui va nous parler de sport à Angers. 50 minutes sur le 100.5 FM. Pour réagir à cette émission en direct, c'est mon Insta ou Twitter, PB Radio G, tout simplement.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Et avant de s'intéresser à nos invités de ce soir, voici un premier podcast à propos des semaines d'information sur la santé mentale dont Radio G est partenaire. C'est la voix de Sylvain.
En France, 12 millions de personnes sont touchées par des troubles psychiques, soit 20% de la population. Une réalité qui pourrait être aggravée par la crise sanitaire, selon la Fondation de France. Schizophrénie, troubles bipolaires, dépression et troubles obsessionnels compulsifs figurent parmi les 10 pathologies les plus préoccupantes du XXIe siècle. Notre état de santé mentale varie tout au long de la vie, en fonction de différents facteurs, biologiques, psychologiques, familiaux et sociaux. Une bonne santé mentale nécessite certaines qualités individuelles. Par exemple, gérer ses pensées, ses émotions, mais dépend aussi de l'environnement dans lequel nous évoluons. Par exemple, les mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 que nous vivons ont un impact sur nos droits, nos libertés et nos relations sociales. Dans ce contexte inhabituel, notre santé mentale est bouleversée. Ainsi, nous pouvons tous connaître des moments de souffrance psychique dans notre vie qui sont variables en intensité et en durée. Lorsqu'ils sont intenses, durable et qui limite notre capacité à gérer le quotidien, on parle alors de maladie psychique. Lorsque cette maladie affecte l'autonomie de la personne et sa participation sociale, elle peut entraîner une situation de handicap psychique. Dans notre société, chaque personne a accès aux mêmes droits universels et les institutions doivent en garantir le respect. En tant que citoyenne ou citoyen, j'ai le droit à la santé, à la sécurité et au respect de mes libertés individuelles, à la dignité, au logement et au travail. Lorsque ces droits sont bafoués, lorsque je subis des discriminations, ma santé mentale peut être perturbée, d'autant plus si je vis avec des troubles psychiques. Les personnes concernées par les troubles psychiques sont souvent confrontées à la stigmatisation et à la discrimination. Lutter contre ces discriminations et garantir le respect des droits, c'est faire de chacun un citoyen à part entière, quel que soit son âge, son état de santé ou son handicap.
Ce podcast vous est proposé par le collectif organisateur des semaines d'information sur la santé mentale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur Facebook SISM49.
L'invité de Topette sur Radio G.
Karine Legendre, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va toujours ?
Très bien.
Du coup, vous êtes la directrice générale de l'Office de tourisme aux Émauges. Les Mauges, un nom bien connu, mais un territoire dont ne serait-ce que les limites géographiques sont assez incertaines pour beaucoup de nos auditeurs. Donc Karine, est-ce que vous pouvez, on se tutoie, on se voit, on se tutoie, est-ce que tu peux rappeler du coup quelles sont les limites du territoire d'Auzé-Mauges?
Oui, alors les Mauges, c'est entre Angers, Nantes et Cholet, donc un territoire assez vaste, puisque pour aller d'un bout à l'autre du territoire, on a pas loin d'une heure de route pour le parcourir. On borde la Loire sur 50 km et on est entre Angers, Nantes et Cholet.
Oui, c'est le fameux triangle, du coup, c'est pas la diagonale du vide par contre.
Non.
Non, il y a des choses à faire, donc tu l'as dit, il y a la Loire au nord, il y a Cholet au sud. Petite interrogation, je sais pas si c'est une question tabou, mais Cholet, c'est pas dans les Mauges?
Si, bien sûr que ça fait partie du territoire des Mauges. Moi, je travaille pour l'Office de tourisme aux Mauges, qui dépend de la collectivité Mauges Communauté. Donc, c'est un regroupement de plusieurs communes, en fait, c'est une intercommunalité. Et donc, ce sont les découpages administratifs tels qu'ils sont faits. L'Office de tourisme de Cholet est un autre organisme. Donc, moi, je travaille sur le territoire des Mauges, la partie rurale des Mauges, qui est déjà un territoire assez vaste.
Et du coup, les bureaux, ils sont où?
Alors, on est en cours de déménagement, en fait. On était à Saint-Florent-le-Vieil et on va s'installer dans presque 3 semaines à Beaupro, à Mauges. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est la partie un peu caché de l'iceberg. Ce qui est important, c'est où on accueille le public. Et les offices de tourisme qui sont ouverts entre avril et septembre, les accueils sont situés sur la frange ligérienne, à Chantosseau, à Saint-Florent-le-Vieil et à Montjean-sur-Loire. On a également un point d'accueil touristique à Camifolia, au jardin Camifolia.
À Chemillé, en Anjou même, on précise la nouvelle commune. En tout cas, on a reconnu que tu étais une vraie maugeoise, puisque tu as dit Beaupro et non Beaupréau.
Eh oui.
Voilà, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Jean, tu savais qu'on disait Beaupro et non Beaupréau?
Je ne sais jamais trop lequel utiliser, mais maintenant je sais.
Voilà, tu as la confirmation ce soir. Aux Émauges, je vous proposais quoi en fait sur le plan des activités?
Alors, le territoire est assez connu pour être une sorte de triangle d'or économique au niveau des entreprises. Et quand on a créé la structure qui date que de 2019, hein, c'est une structure assez récente, on s'est posé la question de ce qui faisait, quel était notre dénominateur commun. Et ce sont les entreprises et la dynamique et tout un état d'esprit autour du territoire qui est ressorti. Et donc on a précisément là deux axes qui fait notamment l'actualité, c'est quoi ton entreprise, les visites d'entreprise, et également le développement du tourisme d'affaires.
Alors, tourisme d'affaires, ça ressemble à quoi? C'est des séminaires, c'est des visites, des portes ouvertes? Avant de parler de c'est quoi ton entreprise?
Oui, le tourisme d'affaires, c'est des événements pour les entreprises. Ça peut être des activités de séminaires, de cohésion d'équipe, un événement, une entreprise qui fête un anniversaire, par exemple, et qui veut associer tous ses collaborateurs.
Donc, Donc en fait, est-ce que c'est lié à son histoire, ça? Parce que c'est vrai que dans les Mauges, encore aujourd'hui, on a une économie qui est de campagne. On appelle ça les industries, les usines à la campagne.
Oui.
Et du coup, c'est lié à son histoire, ça?
C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. On a une sorte d'état d'esprit assez spécifique entrepreneurial qui est lié à l'activité très forte de textile et de la chaussure au 18e et 19e siècle. Et les entreprises, il y a des entreprises qui ont subsisté dans ce domaine-là, bien sûr, mais il y en a beaucoup qui ont muté vers d'autres métiers. Et on a un fort tissu économique sur un territoire très rural. Et c'est ce qui fait un peu la typicité des Mauges et aussi l'état d'esprit, en fait, entreprenant, d'où le nom Osez Mauges.
Osez Mauges, ah oui, c'est pour ça. Jean, toi qui t'y connais un petit peu en histoire, est-ce qu'il y a un lien avec les guerres de Vendée? Cette fibre industrielle, communautaire presque, dans les Mauges? C'est pas un héritage, ça? De la reconstruction d'après-guerre de Vendée?
Oui, certainement. Il fallait tout reconstruire, puisque beaucoup de villes ont été rasées par les colonnes infernales. Et sûrement qu'au 19e, ça a été un nouvel essor pour le territoire.
Eh bien, tant mieux pour nous. Du coup, maintenant, on ose en Mauges. Et justement, en octobre, vous proposez l'événement « C'est quoi ton entreprise ?» Alors, pour caricaturer, en gros, c'est un « Made in Mauges ». C'est ça.
Si on prend l'événement qu'on connaît, que vos éditeurs connaissent peut-être beaucoup, c'est Made in Angers. Effectivement, c'est un petit peu le même esprit. Ce sont des visites d'entreprises, donc dans 84 entreprises. Donc ça a lieu là tout le mois d'octobre. Et ça représente 300 visites parce que il s'agit en fait d'une visite sur inscription où on est accueilli par l'entreprise, le chef d'entreprise, et qui nous montre les process en fait dans son entreprise. Donc c'est sur inscription et ce sont des visites de qualité où on est accueilli, attendu.
C'est un peu plus que des portes ouvertes. Hein. Là, on est dans presque la découverte finalement de l'entreprise.
Oui, tout à fait. On est accompagné par les personnes qui font partager leur métier et des vraies passions en fait. Et vraiment, tout l'enjeu, c'est de démontrer toute la fierté qu'il peut y avoir derrière certains métiers, notamment des métiers manuels qui notamment peinent à recruter en ce moment, et de montrer toute la valeur de ces métiers parfois mis un peu de côté dans les filières classiques scolaires.
Est-ce que les entreprises proposent aussi des ateliers, par exemple, de découvertes concrètes pour les jeunes, peut-être, qui veulent apprendre un métier, qui sont intéressés, qui veulent confirmer des choix d'orientation?
Alors oui, les visites s'adressent vraiment à tous les publics, au grand public, et ça permet en fait à des jeunes d'approcher certains métiers pour mieux les connaître et peut-être affiner leur orientation. Et alors pour les plus petits encore, pendant les vacances scolaires, parce qu'on arrive à arriver sur la fin du mois d'octobre pour les vacances scolaires, on propose des petits ateliers pour découvrir certains métiers, donc apprenti menuisier, apprenti papetier, apprenti meunier, dans certains sites de visite du territoire. Donc il y a le musée des métiers à Saint-Laurent-de-la-Plaine, également le moulin de l'Épinay à la chapelle Saint-Florent, le jardin Camille Folia à Chemillé.
Je crois qu'il y a de quoi faire, quoi.
Aussi à Montjean-sur-Loire.
Donc on est vraiment à la croisée entre culture, histoire, patrimoine et puis économie toujours actuelle. Émilie, est-ce que faut pas que je me trompe sur le nom, les serres de la Fardelière vont proposer quelque chose dans le genre ou pas?
Alors nous, on va être dans une visite d'immersion un peu, visite à la ferme. Alors c'est des choses qu'on fait déjà sur les vacances scolaires, et là, vu qu'on fait partie de Osez Mauges depuis quelques années, on a retrouvé en fait le secteur Osez Mauges il y a 2 ans, et on a commencé l'année dernière avec ces visites d'entreprise. Et en fait, on partage notre métier, notre savoir-faire, alors plutôt cette fois-ci axé sur l'agriculture et l'élevage, mais ça permet aux gens de venir visiter par ce biais-là.
D'accord, n'en dis pas plus, parce que je vois Jean, il est très interrogatif, il se demande mais de quoi parles-tu, et on va en parler juste après. Ça, c'est un volet agrotourisme plutôt d'Osez Mauges. En fait, il y a aussi beaucoup de choses dans ce style-là. J'ai comme exemple le vignoble Musset-Roulier qui propose... Alors là, on n'est plus dans l'événement « C'est quoi ton entreprise ?» On est dans un autre volet de l'offre d'Osez Mauges.
Oui, voilà, ce qu'on a à découvrir sur le territoire des Mauges, donc un territoire assez rural, comme je le disais. Donc, il y a tout un volet agritourisme. Donc, Émilie qui est là pourra en témoigner plus précisément. Et aussi, en lien avec l'agritourisme, le no-tourisme, parce qu'il y a également du vignoble dans les Mauges, sur les bords de Loire, les coteaux de Thiers, ou même du côté de Valenjoux, il y a du vignoble également. Il se développe en ce moment des offres touristiques, des vraies offres touristiques qui vont au-delà de la simple dégustation au domaine. c'est des balades dans le vignoble et des pique-niques gastronomiques, notamment proposés par le domaine des Galloirs à Drin et le vignoble Musset-Roulier à la Pommeraye.
Et c'est super sympa. J'en ai fait, alors c'est pas dans le même territoire, j'avoue, mais ça m'est arrivé d'en faire et c'est super sympa. Transition tout trouvée pour parler du slow tourisme, mais on va d'abord faire une première pause musicale. Vous êtes toujours à l'écoute de Topette sur le 101.5 FM. On vous accompagne sur le retour du travail. Pour réagir à cette émission, c'est @pbradioG et on écoute Monogramme de Magenta.
Dans le flot de mes pensées qui se télescope, je distingue maintenant un constat naze. Mais moi j'ai pas signé, j'ai pas signé pour ça. Comment faire face? Non, moi j'ai pas signé, j'ai pas signé pour ça. Je fume clope sur clope et je me demande ce que je fais là. Mais moi j'ai pas signé, j'ai pas signé pour ça. We'll be right back.
toujours à l'écoute de Topette sur Radio G. On était en train d'écouter Monogramme de Magenta et vous ne devinerez pas quoi. Jean nous a annoncé un scoop incroyable, les Bazins seraient liés aux Mauges. Jean, tu nous teases ou pas pour la suite? Avec qu'est-ce qui s'est passé entre Bazins et les Mauges? C'est quoi le lien?
Eh bien, le grand-père, l'arrière-grand-père d'Hervé Bazin avait créé un commerce de bonnetterie et de tissus à Angers et son fils a développé une grosse usine à chemiller, justement, à la fin du 19e siècle, qui employait beaucoup de personnes.
Eh bien, merci pour cette information.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
On reparlera des Bazins un tout petit peu plus tard dans cette émission avec toi Jean. Pour l'instant, on va rester concentré sur les Mauges. On va terminer avec l'offre touristique d'Osez Mauges, puisqu'on a parlé donc le tourisme d'affaires, on a parlé aussi
visites d'entreprise, l'agritourisme,
l'agrotourisme, et on parle aussi de slow tourisme, le tourisme lent. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à faire lentement dans les Mauges?
Beaucoup de choses à faire en prenant la mouvance du moment, mais qui est plus qu'une mouvance du moment, c'est vraiment un changement aussi de besoin, de prendre le temps de marcher, donc des randonnées par exemple, du vélo. Donc il y a l'itinéraire de la Loire à vélo qui a atteint des records de fréquentation cette année. Également la vallée de l'Èvre qui parcourt les Mauges du nord vers le sud, pardon, du sud vers le nord, qui se jette dans la Loire. Et donc, ça donne des méandres assez chouettes, notamment des panoramas sur l'Èvre, avec le cirque naturel de Courrossé, par exemple, à la chapelle Saint-Florent. Également, des très beaux panoramas sur la Loire, entre, par exemple, celui de Chantosseau, avec un point de vue du Champalu qui est classé. Également, c'est toutes ces rencontres avec les producteurs du territoire, c'est le prendre le temps de rencontrer les gens et de vivre en fait une véritable expérience et d'apprécier les produits qui sont produits par
les producteurs.
Les producteurs.
Alors Karine, tu te tournes vers Émilie, c'est peut-être le moment de te donner la parole, Émilie, puisque, alors vas-y, dis le nom. Ça s'appelle comment?
Les serres de la Fardelière à Valenjoux.
À Valenjoux, donc Valenjoux, c'est entre Chemillé et Villers, voilà. À peu près. Qu'est-ce que vous proposez? C'est quoi en fait?
Alors nous, en fait, on est agriculteurs, on a une ferme et on est éleveurs de serres, mais pas que. On est aussi éleveurs de cochons et de vaches et on cultive nos petits céréales. Voilà. On est agriculteurs, mais à côté de ça, on a développé une activité agritouristique avec visite à la ferme, restauration à la ferme et puis vente directe.
Et vous êtes du coup labellisé bienvenue à la ferme.
Voilà, alors en fait, c'est une adhésion qui nous permet justement d'être ferme de découverte. Donc, on propose, par exemple, là, à l'automne, des petites balades à la ferme où on fait visiter les familles, les couples, les gens qui ont envie de se promener en pleine nature pour aller à la découverte de la vie des cervidés.
Justement, ça ressemble à quoi une balade, une visite de la des cerfs? À chaque fois, je pense à une ferme, c'est pour ça. Donc, c'est les cerfs de la Fardelière à Valenjoux. Voilà. Ça ressemble à quoi une visite?
Alors, déjà, on vous accueille. Alors, vu qu'on est agriculteur, on est toujours très content d'accueillir les gens à la ferme. Donc, c'est toujours un petit événement. On vous accueille à la ferme en famille et on vous emmène dans les parcs pour visiter. Alors, on fait ça un peu sous forme aussi de jeu. Donc, on a un petit livret et on vous suggère une petite chasse au trésor naturel. Alors, ça n'a rien d'extraordinaire. On va juste découvrir les champignons, les feuilles. Et puis aussi, c'est le prétexte de vous expliquer ce qu'on sait, nous, de la vie des cervidés. Donc, on va essayer de s'approcher au plus près des cerfs, des biches et puis des faons. Et puis de découvrir tout ce qu'il y a autour de la nourriture, la reproduction. Donc en ce moment, c'est le brame.
Le brame du cerf. Alors attends, on va en parler dans 30 secondes. J'ai juste envie de savoir avant, qui vient à la ferme du coup?
Eh bien, ça va être des familles, ça va être des scolaires, ça peut être aussi des entreprises parce qu'on fait aussi partie du tourisme d'affaires par le biais d'Osez Mauges.
tout est imaginable, tout est possible en fait.
Donc des entreprises viennent faire des sortes de séminaires comme ça, des petites balades de team building.
Pas des séminaires, ouais, c'est plutôt des moments loisirs, récompenses, lorsque les patrons, les CE ont envie de faire plaisir à leurs salariés, bien nous on est là pour les chouchouter sur une soirée peu insolite.
On va faire ça avec l'équipe des salariés de Radio G.
Avec joie.
Karine, c'est un atout pour le territoire d'Osémoges d'avoir des entreprises comme ça, enfin ce genre d'activité ?
Ah bah tout à fait. En plus, j'ai eu la chance de tester et je peux vraiment approuver la soirée en mode vraiment VIP, veillée Brame avec, je ne peux pas tout révéler, mais franchement, on est accueillis aux petits soins et on passe un moment assez magique.
Alors Émilie, tu nous parlais du Brame, là tu viens de reparler à nouveau. Le Brame du cerf, qu'est-ce que c'est ?
Alors, en fait, c'est pendant la période de reproduction des cerfs. Le cerf, avec sa gorge, va faire un bruit et on appelle ça le brame. C'est le cri, un petit peu le chant amoureux pour faire venir les biches, lui montrer qu'il a une belle génétique. Donc, le mâle dominant appelle les biches ou montre en tout cas qu'il est le plus fort avec le brame.
Une imitation tout de suite du brame du cerf par Jean ?
Oui, sûrement.
Non, tu connaissais ce genre d'endroit avec des cerfs ?
Eh bien, non. Enfin, je ne savais pas en tout cas qu'il y en avait sur le territoire de l'Anjou. Et c'est très intéressant parce qu'il y a de plus en plus de fermes différentes que simplement des vaches ou des chevaux. Et ça, c'est plus hétéroclite, on va dire.
Donc là, la ferme, elle a 25 ans quand même. Nous, on reprend une ferme familiale.
D'accord, très bien.
Voilà. Ah, on parle des cerfs et des plats de résistance aussi, puisque
on cuisine à la ferme aussi, oui. Ouais. Donc du coup, vente directe, l'idée, c'est un élevage. Donc on produit la viande et cette viande, on la transforme à la ferme aussi. L'idée, c'est d'être en circuit complètement fermé. On élève, on transforme et on vend en direct.
Même question, qui mange du cerf du coup ?
Eh bien, alors ceux qui connaissent déjà et ceux qui connaissent pas, ils goûtent une première fois. Karine a fait l'expérience l'année dernière et après ils adoptent parce que c'est une viande ultra fondante.
C'était bon, Karine ?
Alors, la recette, en plus, on avait fait tourner une vidéo avec la recette d'Émilie. Et franchement, c'était tendre. Vraiment, la viande, moi, j'ai eu vraiment un grand succès auprès des invités à Noël autour de cette recette.
Jean, t'as déjà goûté la viande de cerf ?
Non.
Non.
Justement, c'est l'occasion d'aller.
Voilà, justement, Émilie, on a ramené, donc on va. Non, on goûtera ça du coup à la ferme Les Cerfs de la Fardelière. Les visiteurs, enfin les personnes qui viennent visiter, ce sont les mêmes personnes qui viennent acheter de la viande ou pas ?
En général, oui, la visite, on reçoit un peu comme tout le monde à la maison, comme des copains. Donc quand les gens repartent, en général, c'est ils ont pris tout ce qu'il y avait à capter de la ferme et ils reviennent en toute confiance pour acheter la viande après à Noël. Donc sur les ventes directes de fin d'année, les deux week-ends avant Noël.
Mais comment est venue cette idée ? Pourquoi passer au cerf ? Parce que tu disais, il y a aussi des cochons.
Oui, il y a des cochons, des vaches.
Alors
en fait, il y a 25 ans, mes beaux-parents, mon beau-père en particulier, avait vraiment cette passion des cervidés. Il s'était dit, gamin, j'aurais bien un cerf plus tard. Et à 40 ans, il s'est souvenu de son rêve de gosse et il s'est dit, allez hop, j'achète un cerf et deux biches. Et c'est parti comme ça. L'année d'après, il y avait les petits. Et de fil en aiguille, l'élevage s'est installé. Il s'est formé à la boucherie, à la charcuterie. Et puis, il nous a transmis le virus et c'est parti.
C'est un bon virus qu'on se transmet. Ouais. Hein. Ça, on peut s'en transmettre des virus comme ça. La question, bienvenue à la ferme. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un gîte aussi ?
Alors non, ça veut dire qu'on est prêt à vous accueillir à la ferme. Ça veut dire qu'on est équipé au mieux. Enfin, on vous présente en tout cas la ferme dans les conditions comme nous on y travaille. Et voilà. Et ça veut dire que il y a des programmes pour les vacances scolaires, pour accueillir les enfants, pour accueillir les familles. Il y a des programmes plus pour les adultes. Là, comme en ce moment, les veillées, les soirées Brame, c'est plutôt pour les adultes parce que c'est à la tombée de la nuit, on est au bord de l'eau.
Ça se passe la nuit en fait. Faut venir
alors,
le soir.
Ce qu'on propose. On est en fin de journée et puis très rapidement, là, au mois d'octobre, il va faire nuit à 8h. Donc, c'est un moment aussi à partager entre adultes tranquillement. Et puis, on vous propose les petites planches apéro, le petit verre de vin qui va bien et on vient avec les petites chandelles, les petits lampions.
On sent que Karine a l'a vécu, hein, parce qu'elle a des petites étoiles dans les yeux. Elle a dû passer un excellent moment là-bas.
Excellent. En plus, on s'en fait pas tellement le programme, en fait. C'était un peu la surprise. C'est pour ça que j'ai pas osé trop en parler tout à l'heure.
Mais... C'est les soirées insolites les soirées à la ferme.
Et quelle impression laissent les gens, généralement, que ce soit sur le plan de la visite, des soirées brame du cerf, ou même simplement de la consommation de viande de cerf?
Alors, en tout cas, c'est une grande découverte. À chaque fois, on a le sentiment qu'ils n'ont jamais enfin, qu'ils n'ont pas forcément goûté avant. Ou alors, ceux qui connaissent, ils savent et ils reviennent les yeux fermés. Et ceux qui découvrent, ils disent... alors, j'ai entendu un client ce week-end dire « Ah, vous m'avez réconcilié avec la viande. » Et ça, bah, c'est déjà une bonne chose. Et on ne dit pas « Il faut en consommer tous les jours. Hein, » c'est pas ça. C'est on se dit juste « On est producteur. On transforme nous à la ferme. Bah, » voilà, il y a ce qu'il faut ici. Vous pouvez venir en chercher à la ferme.
Bien, nous voilà servis. Merci beaucoup Émilie et Karine. Restez avec nous, on va faire un petit tour un peu plus au nord de la Loire maintenant avec Jean à Maran. Mais juste avant, on va faire un petit crochet par Souzé Champigny avec Camille.
Envie de partir en vadrouille? Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble à Souzé Champigny. Tu sais, ce petit village, à quelques kilomètres de Saumur, a de quoi faire tourner les têtes. Il allie bord de Loire, cave troglodytique et vigne. Un combo gagnant pour les Angevins, comme pour les touristes. Allez, en voiture. Gare-toi donc le long de la Loire, c'est plus pratique. Il ne nous reste plus qu'à suivre les panneaux directionnels menant aux troglodytes. Nous arpentons les ruelles étroites jusqu'à trouver l'entrée. Ce n'est ni une grotte effrayante, ni un trou béant, mais bien l'entrée des caves, cerclée d'une arche en tuffeau d'un blanc pur. C'est une invitation à la découverte. Nous sommes seuls, il n'y a pas de bruit. Une légère appréhension, irrationnelle, ça c'est certain, nous empare. Ça y est, nous partons à l'aventure. Des puits de lumière, d'anciennes habitations, mais surtout une ancienne rue commerçante. C'est impressionnant. Après avoir arpenté sur plusieurs centaines de mètres ces souterrains, nous revoilà à la lumière du jour. Nous sommes à flanc de coteau et se dressent devant nous de somptueuses demeures toutes de tuffeaux vêtus. Des tourelles et des maisons encastrées dans la roche, c'est inhabituel. Nous continuons toujours en observant cette architecture typique au Saumurois, quand, d'un coup, nous nous retrouvons au cœur des vignes. Là, je l'avoue, c'est mon péché mignon. Observer la pousse des vignes rectilignes, je trouve ça apaisant. Mais en plus, avec cette vue sur une partie des coteaux de la Loire, une dernière ligne droite et nous retrouvons notre point de départ. Pas encore rassasié? Bon, d'accord. À moins de 10 km d'ici se trouve l'abbaye royale de Fontevraud. Tu voulais quelque chose de grandiose? Tu vas être servi. Elle fut l'une des plus grandes cités monastiques d'Europe. Je te laisse tranquillement découvrir ce lieu rempli d'histoire. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous!
Merci beaucoup Camille. Donc podcast à réécouter sur le site internet de Radio G, onglet podcast plus, rubrique L'Anjou avec Camille. Et vous pouvez aussi la suivre sur son compte Instagram. Jean, est-ce que tu connaissais Souzé Champigny?
Oui, j'ai visité quand j'étais enfant.
Fontevraud?
Oui, et puis Montsoreau à côté, et même Souzé Champigny, j'y suis passé.
Et vous les filles, Karine et Émilie, vous connaissez ce coin-là? Saumur, non?
Oui. Ouais. Fontevraud, oui.
Je vous pose pas la question de savoir si c'est plus beau que les Mauges.
C'est différent.
C'est différent. C'est ça qui est bien d'Anjou, c'est qu'on a vraiment de quoi faire. Et on va continuer dans la découverte angevine. On y a été il y a déjà un mois avec Jean-Christophe Garnier, son propriétaire. Mais Jean, ce soir, tu vas nous reparler du château du Paty pour la simple et bonne raison que tu as écrit un livre dessus qui s'appelle
Le château du Paty, maison-musée Hervé Bazin.
Tout simplement. Et tu avais déjà écrit à propos du comte de Falloux. Pourquoi tu récidives aujourd'hui avec un nouvel ouvrage?
Eh bien, les sujets historiques sur l'Anjou et plus précisément le Haut-Anjou segréen sont nombreux, donc il y a toujours quelque chose à dire. Et c'est une histoire assez méconnue dans ce territoire. Et donc, toutes les recherches ont encore à faire. Et là, l'occasion a été trouvée puisque le château vient d'être restauré et ouvert en plus au public. Donc, c'était une très belle occasion.
Alors justement, raconte-nous comment cette occasion est devenue une opportunité et un projet concret.
Eh bien, j'avais eu l'idée d'écrire sur l'histoire qui liait Hervé Bazin et sa maison d'enfance, qui est donc le Paty. Mais il y a quelques années encore, le château était quasiment en ruine et à l'abandon. Et donc, j'avais remis un peu à plus tard ce projet. Et puis, comme un nouveau propriétaire est arrivé assez...
impliqué ?
Oui, très ouais. Impliqué, mais surtout, c'était pas prévu, c'était une très bonne nouvelle.
Incongru,
voilà,
c'est le terme.
Incongru. Et donc, ça a précipité un peu l'écriture de l'histoire du château, puisque Jean-Christophe Garnier a fait lui aussi ses recherches pour reconstituer le château, et moi également, j'ai poussé les recherches dans les archives pour pouvoir écrire ce livre.
Émilie, le château du Paty, c'est qui ? C'est quoi ?
Je connais pas du tout.
Karine, même question ?
Bah là j'ai triché, hein. Hervé Bazin.
Hervé Bazin, oui, alors c'est lié à l'histoire d'Hervé Bazin. Hervé Bazin qui était un romancier angevin. Il est décédé en 96, je crois, c'est ça ?
En 95.
Ouh, j'ai pas triché moi, hein. J'y étais presque, mais j'avais la mauvaise réponse. Pourquoi le château du Paty a tant compté dans sa vie à Hervé Bazin ?
Eh bien, c'est le fameux château de son enfance, assez malheureuse, puisqu'il l'a raconté dans Vipère au Poing, le fameux roman que tout le monde pratiquement a lu, puisqu'il était au programme, il y a quelques années encore, il était au programme scolaire. Moi-même, je ne l'ai jamais étudié à l'école, mais de nombreuses générations de Français ont découvert cette histoire qui est assez triste, puisque ça se passe dans les années 1920-1930. Et donc c'est l'histoire justement de cette enfance qui se passe à la Bellangerie dans le livre. Mais la Bellangerie, c'est le nom d'emprunt du château du Paty, qui est véritablement la maison d'Hervé Bazin. Et donc du roman Vipère au Poing.
Et justement, alors c'est précisé, je crois, dans le roman. Je l'ai lu, mais pas à l'école. Je lisais pas beaucoup de livres quand on me demandait de les lire au lycée ou même au collège. En tout cas, j'ai lu ce livre-là, du coup, Vipère au Poing, des années après. Et il explique, il me semble, le lien entre le Paty et la Bellangerie. Pourquoi il a choisi la Bellangerie, en fait ?
Alors la Bellangerie, ça, il l'a pas inventé, puisque c'est le nom de la ferme qui est juste à côté. Le château était au milieu d'un domaine de plusieurs dizaines d'hectares, et donc en dépendait plusieurs fermes, dont la ferme de la Bellangerie, qui existe toujours d'ailleurs. Si on va dans la campagne de Maran, on trouvera la ferme de la Bellangerie. Et donc, pour ne pas faire un roman complètement autobiographique, il a changé les noms de personnages, il a changé les noms de lieux, et donc le Paty est devenu la Bellangerie.
Falcoche, Karine, ça te parle du coup ?
Oui.
Ça. Émilie, tu l'as lu ce livre ?
Non, je suis passée à côté, moi.
Tu as vu, peut-être qu'il y a eu des téléfilms, je crois.
Alors, par contre, oui, il y a la génération plus jeune l'a découvert plus au cinéma. Il y a eu quand même un téléfilm dans les années 70, en 1971, avec Alice Aprich, qui était la grande actrice de l'époque. Mais ça a été remis au goût du jour en 2004, avec Catherine Fraud et Jacques Villeray. Et là, c'est un film qui passe à peu près tous les ans. Et c'est donc Vipère au Poing.
Il est calé, hein. Il est calé, hein, sur l'histoire de Vipère au Poing et du château du Paty. Dans ton livre, qu'est-ce qu'on y apprend sur le château, sur la famille Hervé Bazin ?
Eh bien, on apprend la véritable histoire derrière le roman, puisque souvent on se dit est-ce que Falcoche c'était si terrible que ça ? Est-ce qu'ils ont eu une enfance vraiment aussi dure ? Et donc là, on apprend la vraie vie donc de la famille Bazin. Avant et après le Paty, parce qu'il y a aussi toute cette histoire-là. Il y a les autres personnages de la famille aussi, puisque les Bazins c'est une famille angevine depuis longtemps. Mais il y a plusieurs personnages célèbres de la famille. Par exemple, il y a eu un Vendéen, justement, pendant la guerre de Vendée, l'ancêtre direct d'Hervé Bazin était employé du comte de Molévrier.
Encore un lien avec les Mouges, là.
Au château de Molévrier. Et quand la guerre de Vendée a éclaté, il était avec son collègue Stofflet et ils sont partis faire la guerre de Vendée. Et puis il y a aussi Ernest Bazin qui était l'arrière-grand-oncle d'Hervé Bazin, qui lui était un ingénieur un peu fou et qui a inventé des machines. Il a essayé de créer des dirigeables à l'époque où c'était la grande mode. Il a inspiré Jules Verne directement.
Rien que ça.
En faisant des fouilles, parce qu'ils étaient contemporains avec Jules Verne. Et au milieu du 19e siècle, on a fait des fouilles pour retrouver un trésor dans la baie de Vigo, en Espagne. Et Jules Verne est venu visiter ce chantier. C'était mené par Ernest Bazin et il a intégré cet épisode dans 20 milieux sous les mers.
Et c'est ça qui est fantastique avec Jean et ses deux ouvrages, jusque là t'en as deux je crois, c'est qu'on apprend des personnalités insoupçonnées qui étaient là, qui ont traversé le temps en Anjou et qui sont étroitement liées du coup à des grands faits et des grands personnages. J'ai une question, Hervé Bazin, il entretenait quel rapport avec le château du Paty?
Alors tout début de sa vie, il y a un bon rapport parce que il a commencé sa vie finalement élevé par sa grand-mère Marie Bazin, qui était la véritable propriétaire du château à cette époque-là, puisqu'elle l'avait hérité de son propre père qui avait construit ce château. Et donc, comme les parents d'Hervé Bazin étaient partis en Chine pendant la guerre 14-18, ils avaient laissé les enfants à la charge de la grand-mère. Et donc c'est le tout début du roman Vipère au Poing où l'enfance est assez heureuse puisqu'ils sont entourés de leur grand-mère, même si elle est un peu stricte, c'est une enfance assez sympathique dans les champs, etc.
Mais sur la fin de sa vie, Hervé Bazin,
après donc c'est le retour des parents, c'est beaucoup plus dur, et puis ensuite il trouve le moyen de partir et de quitter cette vie-là. Donc une fois qu'il est devenu jeune homme et après même homme, il ne revenait plus vraiment au Paty. Et puis sa mère est décédée en 1960 chez lui. C'est assez étonnant parce qu'ils n'entretenaient pas une grande relation, mais elle est venue chez lui et c'est là qu'elle est décédée chez lui. Et donc il en a hérité du château et il a pas voulu, même s'il aimait l'Anjou, il a pas voulu se réinstaller au château du Paty. Il l'a vendu en 1961 en découpant les différentes fermes et en vendant séparément les différents lots. Et donc depuis 61, le château qui était depuis très longtemps dans la famille, et avant c'était une simple ferme,
disparu.
Voilà, plus c'est sorti de la famille. Hervé Bazin a continué à vivre en Anjou et a fini sa vie en Anjou. Il est mort en Anjou, voilà, à Angers même.
Et il vivait à Cuneau, je crois.
Et il a vécu juste avant à Cuneau.
Alors, des histoires, voilà, plein de détails fantastiques. Moi, j'aime beaucoup tes livres. On apprend plein de choses, surtout quand on aime sa patrie angevine. Justement, en parlant de patrie, et après, tu nous diras où est-ce qu'on peut trouver ton livre. On va parler de l'Anjou libre avec Calix Denis Gremont qui continue à publier chaque samedi dans Ouest France ses billets indépendantistes.
Des sous-marins pour les Angevins, ou plutôt nous que le Bon Coin. J'avoue n'avoir longtemps pas eu, à l'égard de l'Australie, d'opinion bien arrêtée. Me bornant, comme mes contemporains, à considérer avec amabilité cette rafraîchissante patrie du kangourou, du koala et de Kylie Minogue, les trois cas, jusqu'à cette retentissante affaire des sous-marins, qui, me faisant entrevoir la plus avantageuse des opportunités, a définitivement achevé de me rendre ces Australiens sympathiques. Nul n'ignore que le gouvernement de Canberra, qui avait passé à la France, soyons précis, à la Société française Naval Group, commande d'une douzaine de sous-marins, soit un marché de plus de 30 milliards d'euros, s'est finalement avisé qu'un pacte américano-britannique était plus juteux que l'amitié française et a planté là la France, le contrat et les 12 sous-marins. En cette circonstance, une nation avisée, la nôtre, aurait avantage à faire une offre de rachat et à négocier au passage un rabais consistant pour cette douzaine de submersibles, désormais tout à fait décotés à l'Argus, et qui donc ne trouveront plus preneur même sur Vinted ou Le Bon Coin. Cette même nation, toujours la nôtre, s'honorerait ainsi d'une part à faire de la France son obligé, parce que quand même c'est une sacrée épine ôtée du pied de la République, et d'autre part de s'offrir à peu de frais une puissante force de dissuasion, certes conventionnelle, entendez que ces sous-marins ne sont pas nucléaires, ce qui au prix du gazole n'est actuellement pas la meilleure des nouvelles, mais quand même raisonnablement crédible. En positionnant ces bâtiments stratégiquement, immergés dans l'Oudon pour protéger Segré, dans la Loire gardant Saumur, au fond du lac de Maine pour la défense d'Angers, nous garantirions la sécurité de nos frontières aquatiques, du moins fluviales, tout en offrant aux riverains un spectacle des plus pittoresques. À cet effet, le mouvement indépendantiste angevin lance un de ses financements participatifs très en vogue sur Internet, sous le titre « Des sous-marins pour les Angevins, pas pour les Australiens ». Cette cagnotte numérique devrait nous permettre l'acquisition, à un prix raisonnable, d'un début d'armada.
Rien que ça, merci beaucoup Calixte, donc à retrouver chaque samedi dans Ouest France pour ses billets indépendantistes. Merci aussi à, donc aux trois invités qui étaient là, Jean, Karine et Émilie. On va conclure tranquillement. Alors Jean, ton livre, on peut le trouver où ?
On peut le trouver dans les librairies à Segré, mais à Angers aussi, la librairie Richer notamment.
Voilà. Tout simplement, voilà. Donc en accès libre et tout. Karine, un petit mot pour conclure sur le territoire d'Osémoges.
Eh bien, on peut retrouver toutes les informations sur osemoges.fr pour s'inscrire pour une visite d'entreprise, pour voir toutes les randonnées éventuellement aussi.
Tout ce dont on a parlé.
Et l'agenda.
L'agenda, et on peut éventuellement retrouver aussi la ferme. Bienvenue à la ferme avec Émilie.
Eh bien, nous, sur réservation, pour de la restauration, live en direct, un petit coup de téléphone à la ferme ou un petit message, et puis je réponds.
Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup. On mettra tout ça en lien dans le podcast de l'émission. Merci beaucoup à
Merci.
Tout le monde.
Merci.
Topette, avec Pierre Benoît.
Allez, tout autre sujet. On va se quitter maintenant avec Mathem, qui va nous parler bien-être et sport après la rentrée, voilà, pour se remettre en forme, se remettre en bonne condition physique.
Salut les angevines, salut les angevins. Moi c'est Mathilde, alias Mathem. Ma mission ? Vous faire découvrir des concepts angevins originaux et des entrepreneurs locaux passionnés. Mes super pouvoirs ? Une vision et une ouïe aiguisées pour ne rater aucune pépite. Sans oublier un sourire d'enfer pour vous partager tout ça dans la joie et la bonne humeur. Laissez-moi enfiler mon costume et retirer mes lunettes. Nous partons ensemble à l'aventure. Aujourd'hui, je vous parle bien-être et sport. Je commence avec ma coach sportive préférée. Et si vous me suivez sur Instagram, vous la connaissez sûrement déjà, Mathilde de Bloomfit. Avec elle, le sport ne ressemble pas à du sport. Mais si, vous savez, celui qui doit être éreintant pour être efficace, celui où vous y allez un peu à reculons, mais allez, j'y vais parce que quand même, hier, j'ai mangé un burger frites. Avec Mathilde et sa vision Bloomfit, on a envie de faire du sport. Parce qu'à ses côtés, sport rime avec bien-être, bonne humeur, moment pour soi. Attention, hein, ça veut pas dire qu'on travaille pas. Oh non, non. Comme elle aime à le dire, vous ressentirez de douces caresses sur vos abdominaux, vos fessiers et peut-être même des muscles que vous ne connaissiez pas. Mais tout ça dans la joie et la bonne humeur, le respect et la bienveillance. C'est là l'essence même de Bloomfit, une communauté de sportives bienveillantes, les Bloomfit Girls, où les encouragements et l'entraide priment. Pas de chrono, pas de course à la performance, juste l'envie de prendre soin de soi par le sport. Entre les séances de pilates en studio, le programme de running pour les débutantes, les séances de renforcement et de cardio en plein air, dans la nature ou en ville, vous y trouverez, j'en suis sûre, une activité qui vous conviendra. Mais si, quand je vous parle de bien-être et de sport, vous pensez davantage au yoga, j'ai aussi quelque chose pour vous. Le yoga aérien. C'est un yoga qui se pratique à l'aide d'un hamac suspendu au plafond. Un vrai moment de calme et de relaxation. J'ai eu l'occasion de tester cette pratique originale au studio yoga Angers avec Laurie. Étape par étape, mouvement après mouvement, Laurie nous guide pour passer du tapis au hamac et du hamac au tapis. Une fois enveloppé dans le hamac, on se sent en sécurité et en confiance. Une fois la tête en bas, on voit le monde différemment. Si vous cherchez une activité originale et relaxante à tester sur Angers, foncez-y. Enfin, pas trop vite, hein. L'objectif, c'est de prendre du temps pour soi.
Je ne peux pas parler de bien-être et de sport sans vous parler de danse. Une discipline qui, depuis des années, me remplit de bonnes énergies, me donne une patate de dingue et un sourire jusqu'aux oreilles. Il y a à Angers de nombreuses associations et écoles de danse dans des styles très différents. Aujourd'hui, je vous présente la jeune asso que j'ai rejoint depuis 2 ans, Diversity Groove Dance. Que vous soyez confirmé ou débutant, venez y apprendre le hip-hop, le dancehall, l'afro house ou encore le street jazz, la discipline que je pratique. Ici aussi, la bienveillance est de rigueur. Tout le monde s'encourage, tout le monde se motive, tout le monde s'entraide. Je vous invite à les suivre sur Instagram ou Facebook, car ils proposent des stages tout au long de l'année.
Quand tout va vite dans notre vie, c'est important de ralentir, de tester de nouvelles activités, de prendre soin de son corps et de sa tête. Moi, je serais curieuse de connaître vos bons plans sport et bien-être à Angers. Venez en discuter avec moi sur mon Instagram Mathem ou sur mon blog mathem.fr.
Merci beaucoup Mathem, donc à retrouver sur l'onglet Podcast Plus du site de Radio G. Allez, on se quitte, c'est fini. On se quitte d'ailleurs, on va continuer la soirée ensemble avec Ça dégouline dans le cornet, Fred, Philippe et Vincent. Voilà, donc en bonne compagnie. Allez, ciao tout le monde.
I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's 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 coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual hero who appears in you.